VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 7 septembre 2022. Avec vous, Eric Manirakiza. Voici d'abord le sommaire. Au Burundi, un nouveau Premier ministre est nommé après des accusations de tentative de coup d'État. Au Mali, affrontement mardi soir à Talataï entre des groupes armés, plusieurs morts sont signalés. Nouvelle attaque mardi de djihadistes présumés au nord du Burkina, au moins 9 morts dont 7 civils dans le village de Tassiri dans le Sahel. Et rentrée scolaire en Côte d'Ivoire pour la semaine prochaine.
Le tissu est cher. Au moins 1200. C'est bon, mais 1500 mètres. Si tu as plusieurs enfants, tu as dépensé combien dans le tissu? Et les cahiers, les sacs, tout ça.
Vous suivrez le reportage de Delphine Bowies. Poutine salue le rôle croissant de l'Asie-Pacifique dans les affaires du monde. Et dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Purge au sommet du gouvernement au Burundi sur fond d'accusation par le président Évariste Ndayishimiye de tentative de coup d'État. Le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, a été nommé mercredi Premier ministre du Burundi. Ce lieutenant général de police a prêté serment dans l'après-midi, quelques heures après avoir vu sa candidature proposée par le chef de l'État, validée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement. Les précisions de Christophe Ngurunziza.
L'avis du lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha a changé ce mercredi quand l'Assemblée nationale burundaise a approuvé à 100% au poste de Premier ministre du Burundi. Il venait de prendre le poste d'Alain Guillaume Bunyoni qui était ces derniers jours décrié par le numéro 1 burundais. Le désormais ancien ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a fait ses études au nord-ouest du Burundi dans la province de Cibitoke, frontalière avec le Rwanda. Cet ancien maquisard était directeur général du Service national de renseignement avant sa nomination comme ministre de l'Intérieur. Ndirakobucha ne reculait devant rien pour exécuter les décisions prises par son gouvernement ou initiées par son ministère qui a embrassé plusieurs domaines. Monsieur Alain Guillaume Bunyoni était considéré comme le véritable numéro 2 du régime depuis la crise politique de 2015. Il était également le chef de file des durs parmi le groupe des généraux qui contrôle le pouvoir. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Mali, des groupes armés se sont affrontés mardi soir à Talataï, une localité située à 150 km de Gao. Des violents combats qui ont fait de nombreux morts de part et d'autre. Le point avec Mohamed Danyoko. Nous avons quelques soucis techniques que nous poursuivons avec ce journal. Berlin a repris mardi ses opérations de reconnaissance hors de Gao dans le cadre de la mission de l'ONU au Mali, a annoncé mercredi une porte-parole de l'armée allemande. Les forces allemandes participaient notamment à la protection de l'aéroport de Gao et effectuent des vols de reconnaissance pour assurer la sécurité de leur patrouille. Je vous disais tantôt qu'au Mali, des groupes armés se sont affrontés mardi soir à Talataï, une localité située à 150 km de Gao. Nous avons les précisions de Mohamed Danyoko.
Si très peu d'informations sont disponibles sur l'identité des combattants et l'objectif de leur affrontement, une source locale affirme qu'il s'agit de terroristes affiliés au groupe État islamique au Grand Sahara qui sont opposés à des groupes armés qui ont fait allégeance à Al-Qaïda. Talataï, à environ 150 km de Gao, est régulièrement le théâtre de combat depuis le début de la crise sécuritaire en 2012. Cette localité est aussi située à la confluence des zones d'influence de différents groupes armés. Moussa Ag Asharatouman, un des membres fondateurs du MNLA, a affirmé sur Twitter que l'aviation Fama a opéré des frappes cette nuit contre des positions de Daesh dans la zone. Des affrontements ont été signalés ce mercredi à Intachouri. Pour le moment, l'armée n'a pas communiqué sur ce qui se passe autour de Talataï. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Au Burkina Faso, au moins 9 personnes, ces civils et 2 soldats, ont été tués mardi lors de 2 attaques distinctes de djihadistes présumés dans le nord du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après des sources sécuritaires, l'une des attaques a eu lieu dans le village de Tassiri, dans le Sahel, où des hommes armés ont fait une incursion, tuant 7 villageois. L'autre est survenu lorsque des éléments d'une patrouille sont tombés dans l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule à Ounobé, sur l'axe d'Orikaya, deux grandes villes du nord et du centre-nord. Ces 2 attaques surviennent au lendemain de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement entre Djibo et Bourzanga. 35 civils, dont plusieurs enfants, ont été tués. Ces convois, escortés par l'armée, ravitaillent des villes du nord soumises à un blocus de groupes djihadistes. Les terroristes ont récemment dynamité des ponts sur ces grands axes routiers. Dimanche, dans un discours à la Nation prononcé depuis Dori, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, avait salué une relative accalmie dans plusieurs localités. Après l'attaque meurtrière de lundi, M. Damiba a appelé à continuer le combat face aux groupes armés. Selon des chiffres officiels, plus de 40% du territoire du Burkina est hors du contrôle de l'État.
En Guinée, le ministre de la Justice a assuré mercredi que le procès réclamé de longue date du massacre au stade de Conakry en 2009 s'ouvrira probablement le 26 septembre. Le 28 septembre 2009, un regroupement d'ONG et de partis d'opposition organisait un rassemblement dans le principal stade de Conakry. Des milliers de personnes protestent contre une possible candidature du chef de la junte militaire d'alors, Moussa Dadis Camara, à la présidentielle prévue en janvier 2010. Au moins 157 personnes sont assassinées et 109 femmes violées, selon une commission internationale d'enquête de l'ONU qui conclut que le massacre du 28 septembre était un acte prémédité par la junte. Le Front de Salut National, une coalition de partis d'opposition en Tunisie dont fait partie la formation d'inspiration islamiste Ennahda, a annoncé mercredi qu'il va boycotter les législatives prévues le 17 décembre pour remplacer le Parlement dissous.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont déclaré mercredi avoir testé avec succès un missile balistique intercontinental. Il s'agit d'un test de routine et d'opération périodique destiné à montrer que le système de dissuasion nucléaire des États-Unis est sûr, sécurisé, fiable et efficace, a précisé le communiqué. Le missile Minuteman III non armé a été lancé depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie et a parcouru quelques 6760 km au-dessus du Pacifique avant de s'abîmer en mer. Barack Obama et son épouse Michelle Obama sont de retour mercredi à la Maison-Blanche pour renouer avec une tradition rompue par l'ancien président Donald Trump, la présentation en grande pompe de leur portrait officiel. Leurs portraits resteront à jamais au mur de la Maison-Blanche comme un rappel du pouvoir, de l'espoir et du changement, a dit mardi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Le président russe Vladimir Poutine a menacé ce mercredi de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix, tout en se défendant d'utiliser l'énergie comme une arme face à l'Europe qui craint des pénuries. Mohamedou Oufa.
La Russie ne livrera plus de pétrole ou de gaz aux pays qui plafonneraient les prix des hydrocarbures vendus par Moscou. Plafonner les prix des hydrocarbures russes serait une décision absolument stupide, une bêtise, a lancé Vladimir Poutine lors d'un forum économique à Vladivostok en Russie. Nous ne fournirons rien en dehors du cadre des contrats signés avec les pays importateurs, a ajouté M. Poutine, fustigeant ceux qui essayent de dicter à la Russie leur propre volonté. La semaine dernière, les pays du G7 ont indiqué vouloir mettre en œuvre urgemment un plafonnement du prix du pétrole russe, encourageant une large coalition de pays à y participer en représailles à l'offensive russe en Ukraine. La Russie a annoncé la semaine dernière la fermeture des vannes du gazoduc Nord Stream qui dessert l'Allemagne et plusieurs pays européens, invoquant des raisons techniques, notamment une panne de turbine, sans dire quand elle serait réparée. Cette décision a renforcé les craintes des pays européens d'une coupure totale du gaz russe à l'approche de l'hiver et sur fond d'inflation galopante des prix de l'énergie.
L'émissaire américain pour le climat John Kerry a déclaré mercredi qu'il espérait que la conférence mondiale de l'ONU sur le climat prévue à Sharm el-Sheikh en novembre puisse libérer l'énergie dont nous avons besoin pour changer le monde. La COP 27 prévue en novembre en Égypte a pour objectif de porter la voix des leaders africains afin de mobiliser plus de soutien international pour un rétablissement écologique de l'Afrique selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle doit également se pencher sur les financements destinés à aider les pays les plus vulnérables à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Trois migrants sont morts noyés au large de la Tunisie après le naufrage du bateau qui les transportait illégalement vers les côtes européennes, a indiqué mercredi la gendarmerie tunisienne. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez ce soir la Minute Éco présentée par Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a octroyé 4 nouveaux permis d'exploration pour l'or hier en Conseil des ministres. Ces permis, d'une durée de 4 ans, ont été accordés à 2 sociétés, Global Minerai SA et Mankono Exploration. Ces dernières années, la production ivoirienne d'or, 42 tonnes en 2021, a connu une hausse avec l'entrée en production de nouvelles mines. L'Union nationale du patronat mauritanien et la Confédération générale des entreprises du Maroc organisent la 2e édition du Forum économique Maroc-Mauritanie, prévu le 20 septembre à Casablanca. 2 panels sont prévus, l'un sur le climat des affaires dans les 2 pays et l'autre sur les projets d'investissement dans les secteurs de l'énergie, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la finance. La livre britannique a plongé aujourd'hui à son plus bas niveau depuis 1985 face au dollar. Les craintes d'une récession au Royaume-Uni générée par l'inflation ont rendu les actifs britanniques moins attractifs et pèsent sur la livre, tandis que le billet vert est prisé en tant que valeur refuge.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football, suite ce soir des matchs de la première journée de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, entre autres rencontres, l'Inter Milan doit montrer une solidité défensive sur le terrain contre le Bayern Munich du Sénégalais Sadio Mané. Le FC Barcelone de l'Ivoirien Franck Kessier fait face au Victoria Plzen au Camp Nou. Tottenham joue contre l'Olympique de Marseille. L'Atlético Madrid reçoit le FC Porto. En difficulté en championnat, Liverpool de Mohamed Salah et Naby Keita veulent requinquer leur confiance face à Naples de l'attaquant nigérien Victor Osimhen.
Et quelques résultats des matchs d'hier, Yacouba, toujours en Ligue des Champions.
Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne européenne en dominant la Juventus 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Doublé également pour le prodige norvégien Erling Haaland qui a lancé Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez vers une victoire facile 4-0 sur le terrain du FC Séville. À Lisbonne, Benfica a battu Maccabi Haïfa 2-0, 4-1 pour le Shakhtar Donetsk face au RB Leipzig, dont un but du Burkinabé Franck Lassina Traoré. Le Real Madrid, tenant du titre, s'est imposé face au Celtic Glasgow 3-0, mais a perdu son attaquant star Karim Benzema, sorti sur blessure après 30 minutes. Défaite surprise 1-0 de Chelsea, battu par le Dynamo Zagreb.
Justement, le club londonien a licencié son entraîneur Thomas Tuchel.
Oui, les Africains de Chelsea, les Sénégalais Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, le Marocain Hakim Ziyech et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sont sans coach depuis ce mercredi matin. Le club londonien a limogé son entraîneur allemand Thomas Tuchel au lendemain de cette défaite humiliante. Arrivé en janvier 2021 sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a remporté la Ligue des Champions 4 mois plus tard avec les Blues, actuel 6e de Premier League avec 2 défaites en 6 matchs de championnat. Chelsea a changé de propriétaire en mai avec l'arrivée d'un consortium d'investisseurs mené par l'homme d'affaires américain Todd Bowley. Le nom de son successeur n'est pas encore connu.
Ant Jabeur s'est qualifié pour sa première demi-finale de l'US Open.
En quart de finale, la Tunisienne, cinquième mondiale et finaliste du dernier Wimbledon, a battu l'Australienne Adjla Tomljanovic, tombeuse de Serena Williams au troisième tour, 6-4, 7-6. À 28 ans, Jabeur tentera demain jeudi de se hisser pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Pour cela, il faudra battre la Française Caroline Garcia qui a dominé l'Américaine Coco Gauff en quart de finale 6-3, 6-4.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Le président burundais nomme un nouveau premier ministre, Gervais Ndirakobuchar, remplace Alain Guillaume Wunyoni. De même, des changements ont été opérés au sein de l'appareil sécuritaire. Le remplacement du chef du gouvernement intervient quelques jours après que le président Evariste Ndayishimiye a dénoncé des velléités de coup d'État. Pour en parler, Abdourahmane Dia a joint à Bujumbura Tassien Sibomana du parti d'opposition UPRONA.
Je pense que ces deux annonces sont intimement liées parce que même pour des gens non avisés, ça faisait un temps que les deux personnalités parlaient deux discours assez contradictoires, voire même des discours de rivalité, pour ne pas dire de dédain mutuel. Ça veut dire que, quelque part, le président a insinué, d'ailleurs il n'insinuait pas, et dernièrement il a dit ouvertement qu'il avait des gens qui lui tendaient des pièges, qui l'empêchaient de bien faire pour le peuple burundais, bref, qui le sabotaient jusqu'à vouloir organiser justement des coups d'État contre lui.
Est-ce que vous pouvez nous parler du nouveau Premier ministre Gervais Ndirakobuchar qui occupait jusque-là le poste stratégique de ministre de l'Intérieur?
Ça serait trop m'aventurer de ma part de parler de la personne. Je ne maîtrise pas tellement son discours, son parcours plutôt, sauf que je sais qu'il a fait le maquis comme son prédécesseur, comme le président de la République même. Hein. Seulement ce que je peux dire de lui, c'est une personne qui met en exécution ce qu'il veut. Donc, en termes clairs, c'est un homme d'action.
Alors, c'est un homme d'action. Vous espérez peut-être qu'il pourrait aller dans le sens d'un rapprochement ou en tout cas de la mise en place d'un climat d'apaisement avec l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition attend de ces changements?
Le président de la République vient de prouver aux yeux du peuple burundais et aux yeux du monde entier que c'est lui qui est le maître à bord. Donc, s'il veut un climat d'apaisement à l'endroit de l'opposition, s'il veut amorcer des initiatives allant dans le sens de bien faire pour le peuple burundais, je pense qu'il vient de prouver que personne ne peut lui tenir tête, ne peut l'en empêcher.
Et l'opposition serait prête à répondre à une main tendue du pouvoir?
Vous savez, l'opposition n'a jamais refusé de la main du pouvoir. Ça dépend de la main dont vous voulez parler. Mais si jamais le pouvoir acceptait de s'asseoir sur une même table pour analyser toutes les questions qui hantent le Burundi depuis le passé récent de 2015, tout au moins, et l'opposition a toujours été disponible, mais c'est justement le manque de volonté du pouvoir qui a été manifeste.
C'était Tassien Suomana du parti UPRONA, Union pour le Progrès National.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
À Bunia, dans le nord-est de la RDC, les autorités militaires ont assoupli le couvre-feu en vigueur depuis plus d'un an. Une décision consécutive à un retour au calme dans le chef-lieu de l'Ituri, expliquent les autorités. La population et les commerçants en profitent, mais réclament la sécurité à l'intérieur de la province. Reportage à Bunia de notre correspondant Alex Katikatai.
Il est 22 heures passées à Bounia. Dans ce bar du centre-ville, des centaines de personnes sont venues suivre les matchs de la Champions League. Georges, fan du PSG, ne semble pas pressé de rentrer chez lui malgré la nuit très avancée ici.
Bon, actuellement ça va, hein. ça va, puisque on peut marcher même jusqu'à 22 heures, on est à l'extérieur. Comparativement avant l'état de siège, vraiment ça va un peu, ça va.
Dans la rue, la circulation continue, bien que timidement, mais tout semble calme. Trésor et Motaximen.
Nous circulons bien, le couvre-feu est presque inexistant. Dans Bounia, il y a quand même la sécurité. Mais avant l'état de siège, c'était très compliqué. On ne pouvait même pas se retrouver à 7 heures en cet endroit. Il y avait des coups de feu un peu partout.
Ignace, tenancier d'une boutique dans la ville de Bounia, explique que l'assouplissement du couvre-feu lui permet de fermer un peu plus tard que d'habitude. Mais la situation à l'intérieur de la province l'inquiète.
Mes marchandises viennent de Boutembo, mais actuellement, il n'y a pas de route. C'est très insécure là-bas et du coup, je ne sais pas renouveler ce qui manque dans ma boutique.
L'assouplissement du couvre-feu dans la ville de Bounia a été décidé par les autorités militaires qui gèrent la province de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège, il y a plus d'un an. Diony Louboya, gouverneur militaire de l'Ituri.
Vous imaginez que ça fait autant d'années que cette population vit dans l'angoisse, cette population ne peut pas sortir. Non, on ne peut pas continuellement comme ça faire subir ou soumettre à une population qui a souffert comme celle-ci à des couvre-feux. Non. Ils connaissent le prix de la paix aujourd'hui. Ils connaissent le prix de la paix. Et donc, ils nous font confiance. Nous avons vu que, voilà, ils se comportent bien et tout. Et donc, voilà, ils pouvaient, n'est-ce pas, profiter aussi de cette paix-là, comme tout le monde d'ailleurs au Congo.
Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs entités ont été libérées et l'autorité de l'État rétablie. Mais des poches de résistance existent encore, surtout dans les zones minières. Alex Katikatai, Bounia, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est fixée au 12 septembre. Les préparatifs vont bon train. Comment les parents s'y prennent et l'ambiance dans les marchés? Le reportage de Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Les vendeurs d'articles, de matériel et de tenues scolaires s'activent. Rosalie Kwaku et Amy Koulibaly vendent au marché du forum d'Adjamé.
Bon, sans les sacs d'école, sacs collège, école primaire, maternelle, il y a des gouttes autour, il y a des trousses, on a les sacs ISPA. Les élèves, ils aiment bien ça. Tous les collégiens, ils adorent ça. Bon, pour le moment, c'est un peu timide. Hein.
On va sur le marché. C'est le moment, ça va commencer bien.
Les parents aussi préparent la rentrée de leurs enfants. Dame Alice Dibi, la mère du petit Jaurès.
Nous sommes venus faire un peu d'achat pour le petit qui va au CP1. Nous sommes venus acheter sa tenue scolaire.
Moussa Konaté, lui, est père de trois enfants.
Je suis venu pour l'achat pour mes enfants. Comme il y a des solidarités à payer, donc je suis venu pour acheter les pistes scolaires d'abord.
Au Kaolin, dans la commune d'Adjamé, secteur réputé être celui de la vente des tissus. En vogue pour les tenues scolaires, kaki, bleu, blanc et carreau. Les couturiers Ali et Sekou Diara travaillent plein temps pour respecter le délai de livraison.
On va souvent satisfaire les parents et les enfants.
Non, si ça n'a pas de problème. Non, on ne donne pas pour rendez-vous ici. Comme ces tenues-là, on ne donne pas pour rendez-vous. Ça cause qu'on n'a pas prendre le travail de fête. Ces tenues seulement, on en a fait.
À quelques mètres de là, des clientes évoquent le coût élevé des tissus.
On est venu acheter les tissus pour aller coudre kaki de nos enfants. Mais vraiment, le tissu est cher.
Moins 1200, c'est bon. Mais 1500, 1 mètre. Si tu as plusieurs enfants, tu as dépensé combien dans le tissu? Les cahiers, les sacs, tout ça.
Indexé, les commerçants s'expliquent.
En détail, les tissus, on pouvait vendre à 1000 francs, à 1200, mais actuellement, nous-mêmes là, on prend ça à 1000 francs, à 1200 maintenant. Donc, on ne peut même pas vendre les mêmes prix.
À Yopougon, Wakouboué aussi, Savadogo Irissa tient une librairie par terre.
Comme ce n'est pas encore la rentrée, on s'est débrouillé en pied. On mélange niveau avec les garçons. On vend ça, vraiment ça va.
Quelques parents rencontrés sur place réagissent.
Le complet des cahiers coûte 9900. J'ai oublié de prendre les deux complets.
parce que je vois que c'est arrivé mon cher.
Hélène Conan, mère de deux enfants.
On nous avait déjà prévenu pour la date. Les enfants sont prêts.
Et les élèves reprendront effectivement le chemin de l'école à partir du 12 septembre pour une durée de 9 mois, soumise au découpage en 3 trimestres et le début des vacances le 31 juillet prochain. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les dérèglements climatiques et comment y faire face. Inondations records au Niger, au Sénégal, dans le Mississippi et au Pakistan. Dans les quatre coins du monde, les infrastructures d'assainissement ont du mal à contenir les quantités d'eau records se déversant sur les villes. Au même moment, la Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse et une grave famine due au manque de pluie. Qu'est-ce qui explique ces conditions climatiques extrêmes? Le phénomène est-il irréversible et comment limiter son impact sur les populations? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Plusieurs dirigeants africains, dont les présidents Macky Sall du Sénégal et Étienne Tshisekedi de la RDC, ont dénoncé lundi l'absence de chefs d'État industrialisés à un sommet sur le changement climatique à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ce sommet, programmé à 2 mois de la COP27 en Égypte, plaidait pour plus de financement pour soutenir l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Pour une analyse, Mohamedou Onfa a joint Nikese Mwolombi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale.
Ce sommet n'avait pas lieu d'être. S'il fallait régler la question de l'adaptation, il fallait faire un sommet en Afrique pour les Africains avec les réalités du moment. Vous avez des organisations internationales qui se substituent des fois en lieu et place des États et réussissent à balader des personnalités. Et c'est comme ça que cette ONG qui a créé un centre sur l'adaptation a décidé de se faire de l'argent sur le dos des Africains.
Plusieurs dirigeants africains ont dénoncé l'absence des principaux leaders des pays industrialisés et pollueurs. Comment est-ce que vous réagissez à ces absences d'abord et à la posture des dirigeants africains?
Ça a été pour les peuples africains une insulte, une humiliation que d'avoir permis à ces chefs d'État respectés de répondre à une invitation d'une ONG pour 50 millions de dollars qu'un seul négociateur pouvait obtenir. Un chef d'État, fût-il en Afrique, on ne le déplace pas n'importe comment. Pour vous dire, en matière de négociations climatiques, l'Union africaine, qui a le mandat des États, a mis en place un groupe de négociateurs africains. Un chef d'État, quand il se déplace, il s'assure qu'il aura son homologue. Il s'assure que préalablement, il a la certitude que ce qu'il va recevoir est déjà prévu et qu'il part pour recevoir une annonce. Nous considérons que c'est une insulte au peuple africain au moment où la COP doit se régler. Dans un pays africain, il n'y avait pas urgence. Ces questions devaient se régler en Égypte.
Vous parlez d'adaptation. Pouvez-vous nous dire plus, c'est quoi l'adaptation pour l'Afrique?
L'adaptation pour l'Afrique, c'est le règlement de toutes les questions de raison côtière. C'est le règlement de toutes les questions des inondations. C'est le règlement de toutes les questions de sécheresse. Vous prenez l'Afrique centrale, vous voyez le lac Tchad. Le lac Tchad aujourd'hui est totalement desséché. Il y a une question de sécheresse. Il faut donc aujourd'hui s'adapter. La question de l'adaptation, c'est l'urgence de la sécurité alimentaire. L'urgence de l'adaptation, c'est la croissance économique et sociale de nos États.
Il se tient la COP27 le mois prochain. En tant qu'acteur de la société civile et défenseur de l'environnement, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet?
Nous attendons du sommet de l'Égypte le règlement de la promesse climatique. Nous devons capitaliser tout le travail de mise en œuvre qui a été lancé au Maroc lors de la COP de Marrakech pour que, in fine, l'Afrique qui a la solution, mais qui a un problème technologique, qui a un problème énergétique et qui a un problème de recherche scientifique, pose des problèmes sur la table. Et donc, la COP de l'Égypte étant une COP africaine, les décisions devraient se faire.
Nikese Mwolombi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Joselle Morissin, Lionel Lunamira Gahima et Georges Léonard Sagnon pour la production et la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction, à la présentation Eric Manelakiza et Sylvain Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24 sur votre site voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.